Bien. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons sortir un peu du désert pour aller sur la côte de la mer Rouge, et pour examiner le résultat des fouilles du port de Myos Hormos, toujours dans la perspective d'essayer de retracer l'évolution du commerce, du grand commerce oriental dans la mer Érythrée. La localisation de Myos Hormos est aujourd'hui résolue, puisque les fouilles et les inscriptions montrent que ce port est situé à Kousser al-Kadim. Mais cette localisation a longtemps fait débat, malgré les données très sûres du périple de la mer Érythrée. Le périple de la mer Érythrée, qui est un document de premier romain, plaçait ce port à 1800 stades, c'est-à-dire 225 milles, donc 333 kilomètres de Bérénice, et donc vers Kousser. La polémique sur la localisation est due en grande partie à la topographie, qui s'est beaucoup modifiée depuis l'époque antique, et elle est due aussi à un passage de la géographie de Ptolémée, qui situe, au IIe siècle après Jésus-Christ, Myos Hormos à une latitude beaucoup plus au nord qu'elle n'est en réalité. Bien qu'on sache que les coordonnées de Ptolémée sont le plus souvent erronées ou approximatives, la coïncidence entre celles-ci et la présence de ruines antiques importantes sur le site d'Abouchar, qui est situé au nord ici, et certains détails topographiques ont longtemps fait placer Myos Hormos 150 km au nord de Kousser, donc à Abouchar même, où, nous le verrons dans un cours prochain, il existe en fait seulement des forteresses, l'une du Haut Empire, l'autre du IVe siècle de notre ère. Les détails topographiques sont donnés par Agatharchide de Cnide. Nous n'avons pas conservé le texte complet de son ouvrage qui s'appelle « Sur la mer Érythrée », mais il est cité par Photius dans la bibliothèque en 250-81. Il est cité aussi par Diodore de Sicile au livre 3, paragraphe 39, et par Strabon. Selon les versions, le port se trouve à proximité d'une montagne rouge et d'un lac, ou bien l'entrée du port est courbe et voisine de trois îles situées dans ou devant le port. Toutes ces indications pouvaient être retrouvées à Abouchar, ce qui a favorisé la longue méprise dont Hélène Cuvigny, dans l'introduction à l'ouvrage sur la route de Myos Hormos, a donné les péripéties. Je n'y reviens donc pas, sauf pour rappeler que les errements commencent avec Huet, et son ouvrage sur l'histoire du commerce et de la navigation des anciens paru en 1763, qui identifie Kousser à Myos Hormos, et donc juste localisation, et l'autre filon avec Danville, mémoire sur l'Égypte ancienne et moderne, suivi d'une description du golfe arabique ou de la mer Rouge, paru en 1766, qui le place à Abouchar. Donc à partir de ces deux ouvrages se développent deux lignées concurrentes. La polémique, en fait, s'est conclue avec deux articles indépendants parus presque en même temps en 1993 et 1994 qui donnent les preuves épigraphiques et archéologiques de la localisation à Kousser al-Kadim. C'est d'une part l'article d'Adam Bülow-Jacobsen, Hélène Cuvigny et Jean-Luc Fournet qui s'appelle « The Identification of Myos Hormos New Papyrological Evidence » paru dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale qui publiait des ostracas que nous avions trouvés à Maximianon, ostracas mentionnant Myos Hormos comme l'extrémité de la route reliant Koptos à Kousser. Ce qui a été ensuite confirmé par les ostracas de Crocodilo, qui, à plusieurs reprises, mentionnent la route de Myos Hormos. Et je vous renvoie donc, à ce point, à l'ouvrage d'Hélène Cuvigny, qui s'appelle « Ostracas de Crocodilo », paru au Caire en 2005. Et puis, parallèlement et de façon indépendante, David Peacock avait publié dans le Journal of Roman Archaeology en 1993 un article qui s'appelle « The Site of Myos Hormos, a View from Space » où, à partir de photos prises par un satellite, il restituait un port avec une entrée courbe. C'est d'ailleurs à partir de cette recherche préliminaire que David Peacock, associé à Lucy Blue, décida de lancer un nouveau programme de recherche sur le site de Kousser Al-Kadim, dont je vais présenter les résultats maintenant. Mais auparavant, il faut faire un rapide bilan de ce que les sources antiques nous apprennent sur ce port. La source la plus ancienne, nous l'avons vue, est Tagatharchide de Cnid, un auteur alexandrin qui vécut à la cour de Ptolémée VI et qui écrit vers 115 avant Jésus-Christ. Malgré les difficultés posées par son témoignage, rapporté donc, comme je vous l'ai dit, par Diodore, Strabon et Photius, il a le mérite d'être le premier à mentionner ce port qui existait donc à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il indique que Myosormos était déjà un limen mégas, c'est-à-dire un grand port, que l'on avait d'abord appelé le port de la souris, qui est le sens même de Myosormos, et que ce port portait à son époque aussi le nom de port d'Aphrodite. Il signale qu'il y avait trois îles, deux couvertes d'oliviers, et une sur laquelle il y avait beaucoup de pintades. Cette description est fidèlement reproduite par Thémidore, un géographe du début du 1er siècle, que Strabon, au livre 16, paragraphe 4,5, suit fidèlement. Et on lit « Le point qu'Artémidore signale ensuite est appelé indifféremment Myosormos et Aphroditesormos. C'est un port spacieux, mais dont l'entrée est tortueuse et difficile. Juste en face de cette entrée sont situées trois îles, deux qui sont couvertes d'oliviers et très ombragées, et la troisième, où les arbres sont plus rares, qui est toute remplie de pintades. Diodore, au livre 3, donc paragraphe 39, donne à peu près le même texte, disant « Lorsqu'on part de la ville d'Arsinoé, donc Clisma ou dans la région de Clisma, c'est-à-dire globalement dans le golfe de Suez, au fond du golfe de Suez, on longe le côté droit du golfe et on voit à plusieurs endroits des sources d'eau salée se précipitant des rochers dans la mer. Après avoir dépassé ces sources, on voit au milieu d'une grande plaine une montagne rouge qui éblouit les yeux de ceux qui la regardent longtemps. Au pied de cette montagne est l'entrée sinueuse d'un port que l'on appelle le port d'Aphrodite. Il y a dans ce port trois îles, deux pleines d'oliviers et de figuiers, la troisième dénuée de ses arbres, mais on y trouve beaucoup de pintades à nouveau. » Et Strabon, qui est, comme d'habitude, notre meilleure source, à la fois concise et précise, est une source de première main, puisque, comme vous le savez, Strabon lui-même est venu en Égypte en 27 ou 26 avant Jésus-Christ et qu'il avait pu constater de visu des mouvements commerciaux. Et dans la géographie, donc au livre 17, paragraphe 1, il écrit « Non loin de Bérénice se trouve Myosormos, ville où se situe le port d'attache pour les navigateurs, et à petite distance de Coptos s'élève Apollonopolis. Par conséquent, l'isthme délimité par ces deux villes de chaque côté, mais aujourd'hui, c'est Coptos et Myosormos qui ont la faveur et on fréquente ces lieux. Il indique aussi que Myosormos était à une distance de 7 journées de marche de Coptos, ce qui correspond à la distance entre Kousser al-Kadim et Kift à l'heure actuelle. Et au livre 16, paragraphe 4, il rapporte que lors de leur retraite, les soldats de l'expédition désastreuse d'Aelius Gallus, qu'Aelius Gallus, préfet d'Égypte, avait conduit contre l'Arabie, ces soldats furent transportés par bateau jusqu'à Myosormos, d'où ils passèrent rapidement à Coptos. Cela montre à la fois le rôle militaire de Myosormos et sa relative proximité du Nil. Enfin, au livre 2, paragraphe 5, Strabon donne cette précision oculaire essentielle, souvent citée car elle signale le décollage du commerce avec l'Inde. Du temps où Gallus était préfet d'Égypte, je vins le rejoindre et ayant remonté le fleuve avec lui jusqu'à Sienne et aux frontières de l'Éthiopie, je recueillis ce renseignement qu'il partait actuellement 120 navires de Myosormos pour l'Inde, quand autrefois, sous les Ptolémées, on ne comptait qu'un très petit nombre de marchands qui osaient entreprendre une telle navigation et faire le commerce des marchandises indiennes. Comme il a été dit à plusieurs reprises l'année dernière, le périple de la mer Érythrée, qui est un texte écrit par un grec anonyme, certainement pas un lettré, étant donné son niveau de langue médiocre, mais qui, au cours du troisième quart du premier siècle de notre ère, avait voyagé et certainement commercé le long des côtes, donne des renseignements donc de première main. Et de première main, à la fois sur les conditions de navigation, sur la situation des ports, sur les caractéristiques politiques, mais aussi sur les marchandises qu'on pouvait acheter et vendre dans les places de commerce égrenées le long du rivage. Ce memento semble avoir été principalement destiné aux marchands alexandrins qui voulaient se lancer dans des entreprises commerciales avec l'Arabie, l'Inde et l'Afrique de l'Est. Sur Myos Hormos et Bérénice, le périple est peu disert, se contentant de dire que ce sont deux ports désignés. Deux ports désignés qui vient donc du terme grec qui signifie prescrit, obligatoire, et qui indique que ce sont des lieux de débarquement des marchandises à son époque et que probablement ces lieux sont obligatoires parce qu'ils sont sous la garde de l'armée. Et donc le texte dit, parmi les ports désignés de la mer Érythrée et les villes commerçantes qui l'entourent, le premier est le port égyptien de Myos Hormos. Ceux qui naviguent vers cet endroit à droite après 1800 stades trouvent Bérénice. Ces deux ports sont à la frontière de l'Égypte et sont situés dans des golfes s'ouvrant sur la mer Érythrée. Lionel Casson, dans l'édition du périple de la mer Érythrée, paru en 1989, à la page 274-275, a observé que c'est le port qui est désigné et non la place de commerce. Et il a mis en parallèle cette mention avec d'autres contenus dans les papyrus. Papyrus essentiellement d'époque ptolémaïque et romaine. Il en conclut que ces ports sont obligatoires car ils sont sous la protection et le contrôle de l'armée. Ce terme de port désigné explique la place que tiennent Myos Hormos et Bérénice durant tout le Haut Empire, puisque ce sont les deux seuls ports où il était autorisé de débarquer. Il explique aussi que des ports tels que Nicaea ou Philothéra, pas plus mal placés que Myos Hormos, soient restés secondaires. Cette mesure rendant obligatoire le débarquement à Myos Hormos et Bérénice était évidemment destinée, d'une part, à lutter contre la piraterie et d'autre part, en corollaire, à lutter contre toute fraude douanière puisque, comme vous le savez depuis l'année dernière, l'État prélevait un quart de la valeur des marchandises du commerce érythréen. On a de nombreuses preuves de la lutte contre la piraterie, mais aussi quelques indices de la lutte contre la contrebande. D'une part, comme Hélène Cuvigny l'a montré l'année dernière, il y avait dans ces ports des fonctionnaires et des représentants de la ferme des impôts qui avaient autorité pour délivrer des laissez-passer nécessaires pour se rendre dans les autres ports. Et c'est le cas, par exemple, du Paralentes Avitus qui, sous Trajan, se trouve à Myos Hormos où il délivre un laissez-passer pour un pêcheur nommé Pachybis qui doit se rendre à Philothéra, le port qui est près de Safaga. D'autre part, ici vous avez une vue du port de Myos Hormos qui a servi de base à l'article de David Peacock puisqu'il interprète le texte, les textes que nous avons indiquant une entrée courbe comme étant ce chenal qu'on voit ici sur la photo satellite. Et ici donc un texte essentiel qui a été découvert justement dans les fouilles de David Peacock, qui est un papyrus publié par Ludwig van Rengen dans le deuxième tome des publications anglaises de Myos Hormos, page 335-338. C'est un papyrus qui est important pour nous parce que, daté de 93 après Jésus-Christ, il indique que la côte faisait l'objet de patrouilles par des navires de guerre appelés Tesserariae, qui devait à la fois lutter contre la piraterie et certainement contre les contrebandiers. Le papyrus fait état d'un militaire qui est servé sur un bateau appelé l'Hippocampe, et cela implique donc l'existence d'un détachement de la flotte militaire à Myos Hormos, et donc ça rejoint les hypothèses, et ça confirme les hypothèses de Lionel Casson sur la surveillance côtière régulière et des allées-venues, disons, entre Myos Hormos, Bérénice et probablement Clisma. Un autre texte qui est intéressant pour nous, c'est bien sûr le texte de Pline, en livre 6, paragraphe 168, qui décrit la côte en venant du nord, qui mentionne les îles de Sapirène et de Citala, puis des déserts jusqu'à Myos Hormos, où il nous dit « Myos Hormos ubi fons et ainos » ou « tatnos » selon le manuscrit, dont on ne sait s'il s'agit d'une source ou d'un puits, Mais il pourrait s'agir soit d'un puits qui n'a pas été retrouvé par les fouilles, soit de la source de Bir al-Ambaji, ce que pense David Peacock, soit peut-être du captage d'eau à Bir Nahril, qui est à peu de kilomètres de Kousser al-Kadi. Et ce captage dont David Peacock pense qu'il a servi à approvisionner le port. Enfin, Ptolémée, comme nous l'avons vu, donne au IIe siècle des coordonnées erronées, et c'est le dernier auteur à citer Myosormos. En effet, l'itinéraire d'Antonin et la carte de Peutinger ne l'indiquent pas, ce qui semblerait signifier que dès le IIIe siècle, le port est abandonné, ce que l'archéologie prouve désormais, comme nous allons le voir. Commençons par la découverte du site. Le site a été découvert par Wilkinson, qui est un personnage qui mérite un petit excursus. John Garner Wilkinson était né à Little Missenden dans le Buckinghamshire en 1797 et il est mort en 1875. Il a voyagé en Égypte en 1821 jusqu'en 1833 en visitant pratiquement tous les sites et en dessinant tout ce qu'il était possible de relever, établissant notamment la numérotation des tombes de la vallée des rois. À son retour en Angleterre, il publia deux ouvrages essentiels qui sont Topography of Thebes and General View of Egypt en 1835, suivi d'un ouvrage plus synthétique qui s'appelle The Manners and Customs of Ancient Egyptians, Paris en 1837. Mais ce sont ces notes manuscrites qui nous intéressent. Ces notes manuscrites sont conservées à la Bodleian Library d'Oxford et donnent toujours de précieuses indications sur l'état des sites au début du XIXe siècle, aussi bien dans la vallée où, par exemple, c'est son dessin de la peinture des tétrarques du camp de Louxor qui permet de comprendre la peinture, car aujourd'hui, la peinture est terriblement dégradée. Il a aussi dessiné pratiquement tous les sites du désert, tous les forts, comme nous l'avons vu l'année dernière, mais aussi les sites de Bérénice et de Myosormos. Wilkinson avait vu à Kousser al-Kadim des tombes, des ruines, une piste traversant le site et un fort qui est probablement Kasr Hadi, qui est au nord du site. Peu de temps après, en 1822-1824, c'est James Burton qui visite le site lors d'une prospection géologique, mais il ne nous donne pas de détails utiles. Il faut attendre le début du XXe siècle avec Arthur Weigall dans son ouvrage qui s'appelle Travels in Upper Egyptian Deserts, qui est plus un ouvrage de vulgarisation qu'un ouvrage véritablement scientifique, mais dans lequel on trouve des indications essentielles, car il signale notamment des blocs d'un temple ptolémaïque dans des maisons de Kousser. Murray, qui visita Kousser al-Kadim en 1921, donne quelques indications intéressantes et notamment signale l'existence d'un puits d'eau salée et la découverte de plusieurs bouchons d'amphores. Mais en fait, le site restait très mal connu jusqu'aux premières fouilles qui ont été conduites par l'Oriental Institute de l'Université de Chicago, la fouille étant dirigée par Donald Whitcomb et Janet Johnson, et plusieurs campagnes ont été effectuées en 1978, en 1980 et en 1982. Ces fouilles ont donné lieu à deux publications qui sont qualifiées de préliminaires, mais qui sont de grande qualité, donnant à la fois le détail des fouilles, du mobilier archéologique et des analyses aussi bien géologiques qu'archéobotaniques. Et je vous les cite, donc, sous la direction des deux auteurs que je viens d'indiquer, Donald Whitcomb et Janet Johnson, ça s'appelle Kousser al-Kadim 1978, Preliminary Report, paru en 1979, puis sous le même titre, la campagne de 1980 publiée en 1982. Et la campagne de 82, malheureusement, n'a pas fait l'objet d'un compte rendu aussi détaillé. Il y a seulement un article de synthèse publié par Whitcomb et Johnson qui s'appelle la saison de 1982 à Kusair al-Kadim est paru dans The American Research Center in Egypt, la newsletter 120, et ça fait à peine 6 pages. C'est surtout un article de synthèse paru en 1996 par Donald Wincombe qui s'appelle Kusair al-Kadim and the Location of Mios Hormoz, paru dans la revue française Topoi, donc 1996, page 747-772, qui donne l'idée générale que cet effet, ces deux fouilleurs, de leur fouille. Par contre, les travaux sur la période Ayyubide finale et la période Mamlouk ont fait l'objet d'un article plus récent et plus détaillé de Strange Burke dans l'Annual Report of the Oriental Institute of the University of Chicago en 2004, et qui résume en fait sa thèse de doctorat qui est disponible online et qui porte principalement sur les maisons islamiques et notamment une maison qui s'appelle la maison du Cher. Les deux directeurs de la fouille de l'Université de Chicago ont bien vu que le site comportait deux grandes phases d'occupation, une romaine, l'autre islamique. Ils ont retrouvé des habitations antiques et beaucoup de mobilier de l'époque romaine, mais leur interprétation viciée par le fait qu'ils pensaient fouiller le port de Locos Limen, qui est en fait probablement un fantôme créé par une erreur de Ptolémée qui a probablement voulu désigner ainsi un port qui est bien connu par ailleurs, qui s'appelle le Quai Commun et qui est de l'autre côté de la mer Rouge. En 1996, donc, Donald Wincombe a admis devant les preuves papyrologiques et archéologiques que le site de Kusair al-Kadim était bien Mios Hormoz, mais il a quelque peu surinterprété les structures qu'il avait mises au jour 15 ans auparavant, identifiant un fort qui n'a pas été prouvé, en tout cas qui n'a pas été retrouvé par les fouilles anglaises. Il a aussi restitué une division du site en Ensuae comme une véritable ville classique, alors que les constructions sont relativement désordonnées, sauf dans la partie sommitale où se trouvent des bâtiments publics et un entrepôt qui ont des plans plus réguliers. Et c'est d'ailleurs dans cette partie centrale, qui est située ici dans leur carte, hein, Central Building et Roman Villa, que les fouilleurs ont identifié ce qu'ils pensaient être un oréum, ce que les fouilles anglaises ont à peu près confirmé, trouvant la continuation de ce qui semble être effectivement un entrepôt, peut-être à cour centrale. Enfin, les fouilleurs américains pensaient que le port était situé à l'entrée du lagon, c'est-à-dire dans ce secteur-là, alors que les fouilles anglaises ont montré qu'il est proprement dans le lagon à l'époque ptolémaïque et romaine, et ce n'est pas avant l'époque islamique qu'il se déplacera vers la sortie. Malgré toutes ces critiques, l'équipe américaine a réalisé, pour l'époque, une fouille d'une grande qualité, dont il y a beaucoup à tirer, notamment sur les structures d'entrepôt du Haut Empire et sur le mobilier archéologique. Et donc, comme vous allez le voir, j'utiliserai beaucoup leurs données par la suite. Toutefois, bon là, c'est une vue de la ville islamique qui est évidemment en surface par rapport à la ville romaine, et vous voyez se profiler à l'arrière-plan le grand hôtel Movenpick de Kosser qui n'a pas détruit le site puisqu'il est construit en bordure, mais qui a changé beaucoup l'appréciation et le paysage, l'appréciation du site et le paysage qu'on avait auparavant. Donc, la situation a beaucoup changé. Alors ça, c'est la vue de l'article de Wincombe où il restitue un plan relativement régulier dans la partie haute de Mios Hormoz qui est probablement une surinterprétation. Et donc, la connaissance a été récemment renouvelée par les remarquables fouilles de l'Université de Southampton qui ont été effectuées entre 1999 et 2003 sous la direction de David Peacock et Lucy Blue qui ont publié récemment deux volumes intitulés « Mios Hormoz, Kusair al-Kadim, Roman and Islamic Ports on the Red Sea », le premier en 2006 et le second en 2011. Cette recherche de l'Université de Southampton allie une fouille stratigraphique classique à une prospection géophysique et à de nombreux carottages en vue d'étudier la géomorphologie du site. Et ils l'ont associé, bien entendu, à de nombreuses études archéobotaniques et archéozoologiques. Et ce sont ces travaux qui nous serviront de guide, et j'ajouterai les découvertes des fouilleurs américains. Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, dans la publication de David Peacock et Lucy Blue, c'est que dans ce qu'ils ont publié jusqu'à présent, ils n'ont pas intégré ou repris en détail les travaux de leurs prédécesseurs, et c'est ce que je me suis attaché à faire en le synthétisant. Alors commençons par la topographie et l'évolution du lagon. Avant d'entrer donc dans le détail de la structure de la ville, il faut comprendre pourquoi la topographie des lieux a tellement changé depuis l'époque antique. C'est à cette entreprise que s'est attachée Lucy Blue, qui a réalisé plus de 100 carottages de 2 mètres par 2, suivi par des carottages qui descendent jusqu'à 7 et 9 mètres de profondeur et pour certains jusqu'à 28 mètres. Grâce aux données recueillies dans les carottages, distribuées en plusieurs lignes et transectes, elle a pu proposer une évolution du port. Alors, voici la topographie générale. La mer Rouge est ici. Le site est situé à cet endroit-là. Il y a un lagon ensablé qu'on appelle une marsa ici. Et on y accède par plusieurs wadis, plusieurs torrents qui ont creusé des chenaux dans la montagne. Alors, le wadi Al-Hans ici et le wadi Kusser Al-Kadim ici. Et grâce à ces wadis, Mios Hormos est relié à la route que nous avons étudié l'année dernière, donc la route de Mios Hormos, d'un côté, et est reliée aussi au fort de Bir al-Nahil, où se trouvait le puits le plus important. En effet, à Mios Hormos même, la nappe phréatique est polluée, si on peut dire, par la mer, et on ne peut obtenir que de l'eau saumâtre, et il fallait donc approvisionner la ville, probablement par des convois de chameaux transportant des outres d'eau. Le lagon lui-même, que vous voyez ici, est aujourd'hui totalement ensablé. Et c'est l'histoire de cet ensablement que Lucy Blue a tenté de reconstituer grâce à ses carottages. Alors, elle a effectué, comme vous le voyez, des sondages de façon linéaire dans les deux sens. Et elle a associé ces sondages à des carottages qui permettent de restituer une évolution du lagon. La topographie originelle comprenait d'est en ouest un rocher, enfin une zone beaucoup plus haute ici. Et ici, les dernières pentes d'une montagne qui s'appelle le Djebel Dawi. On confluait dans le lagon, donc le Wadi Kusser Al-Kadim et le Wadi Al-Hans, qui, au cours des temps, avaient formé un lac marécageux en connexion avec la mer par un goulet. Et ce goulet qui passe ici contourne un massif corallien qui est d'époque pléistocène et qui culmine à 8 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le lagon s'étend sur 700 mètres vers l'intérieur des terres, donc dans ce sens, et 2 km de longueur. Il a une superficie d'environ 10 hectares et, d'après les études sédimentologiques, il a pris sa forme il y a environ 35 000 ans avant le présent, et il fut isolé de la mer seulement vers 1000 de notre ère par des dépôts de sable apportés par la mer. Alors vous voyez ici dans cette stratigraphie comment progressivement le lagon se comble. Au départ, il y a de l'eau, et puis progressivement, le L'entrée se bouche et les apports sédimentaires du Wadi remplissent le lagon. Alors voici une autre coupe qui montre cela clairement, avec des argiles bleues qui correspondent au fond du lagon à l'époque antique, et puis progressivement, à la fois un secteur qui est bouché par un sable grossier et des graviers qui donc bouchent l'entrée du canal, et à l'intérieur du lagon se déposent progressivement des niveaux principalement de sable et d'argile qui le comblent. Donc l'évolution géomorphologique commença dès le Pléistocène, c'est-à-dire à partir du moment où on assiste à une remontée des eaux dans la mer Rouge. À ce moment-là, le lagon se remplit progressivement d'une couche d'argile bleue, donc celle que nous avons vue là, qui contient de nombreux coquillages qui sont principalement des porcelaines, qui indiquent que ce lagon était dans une ambiance d'hypersalinité. Jusqu'au début de la période romaine, les commerçants et l'armée, lorsqu'au début de la période romaine, les commerçants et l'armée s'installent, et nous verrons que l'on ne sait pas exactement où se trouvent les installations ptolémaïques, ils trouvent donc un chenal courbe entrant dans le lagon, donc un chenal courbe qui fait tout ceci, hein, et qui contourne le rocher corallien pléistocène, et dont les bords marécageux sont couverts de mangroves. Il faut imaginer un paysage un peu du type de celui que vous voyez sur cette photo, qui est une autre Marsa, moins envasée que celle de Kousir al-Kadim, et qui est située entre Myos Hormos et Bérénice, exactement à 95 km au sud de Marsa Alam. Et je pense que cette photo que j'ai prise au mois de janvier nous donne une assez bonne idée de ce que devaient être les bords du lagon lorsque les Romains commencent à le stabiliser. Afin de pouvoir construire, réparer, avitailler les bateaux et les décharger, les Romains, en effet, durent stabiliser la berge orientale du lagon, défrichant la mangrove et remblayant le marécage avec de grandes quantités d'amphores. Et donc là, on est dans ce secteur qui est situé ici. Plusieurs remblées se sont succédées à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ, probablement à cause de la subsidence des sols et du fait que, comme les sols s'enfonçaient dans le marais, il fallait périodiquement, bien sûr, les recharger. Devant le chenal conduisant au port, c'est-à-dire ici, les argiles bleues, donc de l'époque préhistorique, descendent à une grande profondeur qui permettait le passage des bateaux. Ce chenal profond était toutefois étroit et limité par des dépôts de sable au nord et les pentes de la colline au sud. La zone des tranchées 10 à 14, c'est-à-dire dans ce secteur-là, des fouilles de l'université de Southampton, montre un promontoire que les navires devaient contourner pour aboutir véritablement au port et aboutir surtout dans une zone calme, très bien abritée des vents du nord, justement par l'éminence qui porte la ville elle-même de Myos Hormos. Cette situation idéale, malgré la difficulté d'embouquer le canal, le chenal, n'a toutefois pas duré, car l'envasement s'est produit dès le début du 1er siècle après Jésus-Christ, comme le montrent les fouilles de la tranchée 15 de l'université de Southampton, qui est dans ce secteur, et malgré les dragages du chenal qui ont été réalisés au 2e siècle et dont les fouilles de l'Université de Chicago ont retrouvé les épais dépôts au nord du chenal, c'est-à-dire dans ce secteur-là, un secteur que les Américains ont appelé de Highland parce que ça faisait comme une espèce d'île au milieu du port. Les datations carbone 14 réalisées sur les bois découverts au sommet des argiles bleues, donc, montrent que la partie ouest du lagon était déjà totalement envasé au 7e siècle et que, de notre ère, et que la partie est fut comblée avant le XIIe siècle. Au cours de cette période, en effet, la mer a apporté des sables et des graviers qui ont progressivement bouché le chenal ici, provoquant l'ensablement total de la Marsanne. Cet ensablement a lui-même provoqué la formation d'une nouvelle petite Marsanne, hein, qui se situe ici, sur la partie externe du chenal. C'est cet endroit qui devient le port à l'époque islamique, et à cette époque, les dépôts de sable obstruaient totalement le chenal, ce qui explique qu'on a pu construire des bâtiments d'époque islamique dans ce secteur-là. Les dépôts de sable et de gravier continuèrent bien entendu durant la période islamique et après l'abandon total du site, car la mer a apporté beaucoup de sable qui a fini par boucher aussi le port islamique, et à l'heure actuelle, le trait de côte est situé ici. Donc, après avoir brossé le cadre géomorphologique général, il convient d'examiner les vestiges archéologiques. En commençant par la période ptolémaïque. Dans son ouvrage paru en 1996, à la page 147-150, Federico de Romanis fait remonter la fondation du port au Nouvel Empire. Une fondation pharaonique, même plus ancienne, serait logique, du fait de la proximité de la côte et du coude du Nil, et du fait de l'exploitation répétée des carrières du Wadi al-Hammamat. Mais, jusqu'à présent, aucune preuve d'occupation pharaonique n'a été trouvée à Myos-Hormos, sauf peut-être quelques graffitis de bateaux trouvés dans le Wadi Kousser al-Kadim, qui aboutit donc au site. Mais il y a ces quelques graffitis d'interprétation et de datation difficiles, et il n'y a en tout cas aucune trace d'occupation archéologique, car ni les fouilles de l'université de Chicago, ni celles de l'université de Southampton n'ont trouvé de témoins de cette occupation. En fait, on sait désormais que le port pharaonique est situé 60 km au nord, d'abord à l'embouchure du Wadi Gawasis, au cours de l'Ancien Empire et surtout au Moyen Empire, sous la 12e dynastie, donc vers 1900-1800 avant Jésus-Christ, époque durant laquelle ce port s'appelle Saav, S-A-W-W, et qui a été fouillé à plusieurs reprises, et je vous renvoie donc aux articles de Barthes et Fatovic, notamment celui qui est paru en 2004 que je suis ici. À cet endroit, donc, qui est situé à 60 km au nord, hein, ici, se trouve une autre Marsanne, totalement envasée et ensablée, et qui, en fait, était un port intérieur un peu du même type que celui de Myos-Hormos, peut-être plus facile d'entrée, puisque l'entrée est plus large et moins contournée, si on peut dire. Et dans ce port, on a trouvé des sanctuaires et des grottes qui sont creusées dans le rocher pour stocker de la nourriture, des agrès, du bois, et aussi pour travailler à la préparation des expéditions par bateau au pays de Punt. Et donc, ce que vous voyez là, ce sont toutes ces grottes qui sont creusées dans la montagne, dans lesquelles on pouvait donc à la fois stocker du matériel et travailler. Par la suite, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, au cours des 23e et 26e dynasties, un nouveau port est implanté immédiatement à côté, à l'embouchure du Wadi Gassous, qui est juste voisin, et la même route desservait les deux sites, une route qui passait bien entendu par le Wadi Hammamat, mais qui bifurquait ensuite vers le nord-est par le Wadi Atalla, puis le Wadi Saki et le Wadi Gawasis. La distance, en fait, n'est pas beaucoup plus longue que la route de Kosser, et cette route est bien pourvue en puits et donc explique ce tracé. Tout ce qu'on peut dire, grâce à Gattarchide, c'est que le port de Myos-Hormos existait déjà depuis un certain temps, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Époque, donc, où il fut rebaptisé le port d'Aphrodite, nom qui ne s'est pas imposé, puisque dans les documents de l'époque romaine, c'est toujours le nom de port de la souris qui est cité. Toutefois, les fouilles de l'université de Southampton, ni même celles de l'université de Chicago, n'ont trouvé de mobilier de l'époque ptolémaïque, sauf quelques monnaies usées. Alors, j'avais d'abord pensé que le port ptolémaïque était situé sous la ville moderne de Kousser, au pied du fort ottoman construit en 1715. Mais d'une part, les fouilles de Charles Lequen dans le fort ottoman, qui viennent d'être publiées en 2007 dans un livre qui s'appelle Kousser, an Ottoman and Napoleonic Fortress on the Red Sea Coast of Egypt, paru au Caire donc en 2007. Cette publication a montré qu'il n'y a absolument aucun niveau d'occupation antique dans le fort lui-même de Kousser. Et donc, ce n'est pas à cet endroit-là qu'il pouvait y avoir le site du port de Myos Hormos à l'époque ptolémaïque. Et d'autre part, les tranchées de surveillance, les tranchées de téléphone qui ont été posées en 2000 dans la ville de Kousser, dans la ville moderne, ces tranchées ont été surveillées par l'équipe de l'université de Southampton qui, à ce moment-là, fouillait à Kousser al-Kadim, et leur surveillance a montré qu'il n'y a absolument aucun mobilier antique dans la ville de Kousser. Je fais donc ici une rétractation publique. La ville de Kousser n'est pas le port de l'époque ptolémaïque. Il semble qu'elle soit uniquement ottomane, et les blocs du temple ptolémaïque signalés par Weigall en 1909 doivent provenir de Kousser al-Kadim, d'où ils ont dû être ramenés pour être remployés dans la mosquée El-Zilali, de même que une stèle publiée par Reinach en 1910 qui est datée de la 25e année d'Auguste et qui est dédiée à Isis Thamestone. Comme vous le savez, les pierres voyagent, mais l'été sont assez peu, et donc le fait qu'on ait des blocs de remploi dans la mosquée et pas du tout de céramique semble bien prouver que le port ptolémaïque de Myos Hormos n'était pas à l'emplacement de la ville de Kousser l'actuelle, mais bien à l'emplacement de Kousser al-Kadim. En fait, les fouilles de l'université de Southampton, et particulièrement les sondages géomorphologiques, ont restitué un port intérieur assez vaste, comme nous l'avons vu, auquel on accédait par ce chenal courbe, qui cadre parfaitement, finalement, avec les descriptions d'Agatharchide, sauf en ce qui concerne les trois îles couvertes d'oliviers et de figuiers, et celles avec les pentades. Mais selon David Peacock et Lucy Blue, ces îles pourraient être en fait situées dans la partie occidentale du lagon et seraient complètement environnées et recouvertes par les sables aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que la presque totale absence de vestiges d'époque ptolémaïque pose problème. Je veux bien admettre que les structures portuaires aient été situées en bordure nord-est du lagon et qu'elle soit demeurée inaccessible aux fouilles de l'université de Southampton à cause de la nappe phréatique. Mais, premièrement, les fouilles de Southampton, c'est-à-dire principalement la tranchée 15, c'était dans ce secteur-là, ont montré que ce sont bien les Romains qui ont défriché la mangrove et gagné du terrain sur le marais naturel. Et donc, il n'y avait pas d'occupation ptolémaïque à cet endroit. Deuxièmement, les premières phases d'occupation d'époque romaine sont situées directement sur le rocher corallien, notamment dans la partie haute de la ville, et sont datables au plus haut de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc au temps de Strabon. Troisièmement, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de mobilier résiduel parmi les très abondantes céramiques romaines, alors que c'est toujours le cas dans les sites pluripériodes, surtout ceux comme les ports où passent beaucoup de poteries. L'année dernière, Robert Attenborough nous a indiqué qu'en fait, il n'y avait pratiquement aucune céramique d'époque ptolémaïque dans les couches romaines, sauf peut-être quelques tessons qui sont encore à déterminer. Donc il faudra attendre évidemment sa publication de la céramique pour se fonder dessus, mais ça semble extrêmement marginal. Donc, mon hypothèse à l'heure actuelle, et je crois que c'est la seule qu'on puisse faire, en s'inspirant d'ailleurs d'Agatharchide, est que le port ptolémaïque se trouvait non pas sur la rive est du lagon, mais sur la rive ouest, ou en tout cas sud-ouest, dans ce secteur-là, près de l'emplacement possible des fameux petites îles, des fameux trois îlots. Et en effet, il faut penser qu'à l'époque ptolémaïque, le lagon était nettement moins envasé qu'au Haut Empire, et aussi que les navires étaient beaucoup plus petits et moins nombreux. On se rappelle le passage de Strabon. Il est donc possible que les installations ptolémaïques aient été sur cette rive sud-ouest, mais ce secteur n'a pas été du tout prospecté et fouillé par l'équipe américaine et ni non plus par l'équipe anglaise. Il faudrait donc peut-être s'intéresser à cette zone du site. Ce serait l'envasement progressif, déjà à la fin de la période ptolémaïque, qui aurait contraint à déplacer le port sur la rive nord du lagon, de la même façon, nous le verrons, que l'envasement de la baie de Bérénice au cours de l'époque ptolémaïque a contraint à déplacer le mouillage et la ville elle-même vers l'est, au Haut Empire, et à nouveau encore plus vers l'est à partir du IVe siècle, comme nous le verrons dans une prochaine séance. Alors voyons maintenant qu'est-ce qui se passe au Haut Empire où là, on peut se fonder sur les résultats d'Ifou. Alors, voici la rive sud du lagon, comme vous le voyez, complètement vierge de toute exploration archéologique, et ça pourrait être donc dans ce secteur complètement sous les sables que se situerait, que pourrait se situer le port ptolémaïque. Donc, voyons ce qui se passe au Haut Empire. Qu'il y ait eu une explosion du commerce à partir du règne d'Auguste, comme en témoigne Strabon, cela ne fait aucun doute lorsqu'on se promène sur le site qui est jonché d'amphores et de céramiques sigillées de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et surtout du 1er siècle après Jésus-Christ. Les fouilles de l'Université de Chicago et les fouilles anglaises l'ont amplement démontré et il faut maintenant examiner de près les vestiges en commençant par les installations portuaires. Alors, ces installations portuaires se distribuent en plusieurs endroits. En fait, elles étaient tout le long de la rive nord-est du lagon. Alors, vous voyez ici le lagon dans la restitution anglaise. La ville est située là. Les Anglais et les Américains ont surtout travaillé dans ce secteur-là et dans cette zone-ci. On ne sait pratiquement rien de ce qui se passe entre les deux, même si on peut imaginer qu'il y a une forme de continuation. Alors, commençons par la zone qui est située au nord-est de la lagune, ici, car c'est celle qui est la mieux connue à la suite des fouilles récentes. C'est ce que les fouilleurs anglais ont appelé la tranchée 7, donc dans tout ce secteur-là, vous voyez, une espèce d'anse, dans lequel ils ont principalement trouvé des alignements de pierres et des amphores. Et en effet, c'est dans ce secteur-là qu'ils ont pu mettre au jour une plateforme qui servait de quai et de débarcadère, une plateforme qui est faite d'amphores usagées plantées dans l'argile des bords marécageux de la lagune. Cette tranchée 7, étendue sur 60 mètres par 30, vous voyez par là, donc une assez large surface, a montré des alignements de pierres formant deux murs grossièrement orienté nord-ouest-sud-est, et prolongé vers le nord par un énorme dépôt d'amphores s'étendant sur 70 mètres de long, des amphores qui sont recouvertes d'une couche compactée de... là, vous le voyez ici, couche compactée de gravier et de charbon et de tesson. Les amphores sont principalement des amphores Dressel de 4 italiennes et des amphores Dressel de 4 de la région d'Alexandrie, d'une région du lac Mariout, ainsi que des amphores égyptiennes 3 sont produites dans la vallée du Nil. Quelques importations viennent d'Istrie apparemment, mais c'est relativement marginal. Quant aux faciès céramiques, il est de la fin du 1er siècle, du début du 1er siècle après, et Il est associé aussi à trois monnaies de Cléopâtre VII qui permettent donc de dater cette installation plutôt vers le début, ou disons le premier quart du premier siècle de notre ère. Peut-être un peu après, car il a bien fallu accumuler beaucoup d'amphores pour réaliser ce quai, et donc je pense qu'il faut probablement envisager une date sous Tibère, voire Claude, mais tant qu'on n'a pas une publication détaillée des céramiques, on ne peut pas en être certain. Le quai a été ensuite recouvert par plusieurs niveaux d'alluvions déposés en au moins une trentaine de varves et qui semblent s'être déposées en partie au cours de l'époque antique. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Dans l'argile du marais, on a planté ces amphores verticalement, amphores qui avaient été bien sûr vidées, et on a recouvert l'ensemble d'une plateforme qui permettait donc d'accoster et de débarquer les marchandises sur un quai qui était à sec. On a aussi d'autres indications liées aux concentrations de blocs de basalte qui indiquent des zones de déchargement. Ces blocs de basalte sont répartis un peu partout sur les bords du lagon et sont particulièrement intéressants car ils proviennent de l'est qui était utilisé sur les bateaux qui revenaient avec des chargements peu pesants de la péninsule arabique. En effet, le basalte n'est pas naturellement présent dans ce secteur de l'Égypte, et les études qui ont été faites sur ces roches montrent qu'elles viennent de la péninsule arabique, principalement du port de Cana, et il est vraisemblable que lorsque les bateaux ramenaient des cargaisons de myrrhe et d'encens, donc par nature extrêmement légères, il fallait les lester avec des blocs qu'on ramassait sur les plages, et ces blocs, c'était ces blocs de basalte. Donc, c'est intéressant parce que ça nous montre les endroits où on déchargeait les blocs pour, évidemment, recharger les bateaux avec des matériaux plus pondéreux, tels que des amphores. Mais, outre ces indications, les fouilles anglo-américaines ont travaillé dans ce secteur ici, où a été mis au jour ce qui semble être un chantier naval. C'est le secteur que l'équipe anglaise appelle la tranchée 10, qui est implantée sur ce promontoire qui donc fermait l'entrée du port au sud-ouest de la ville. Promontoire, nous l'avons vu, qui est recouvert de ces pierres de basalte. Et sur les fouilles ont découvert sur ce promontoire de nombreuses installations métallurgiques dont la stratigraphie montre au moins trois phases. Une première phase, probablement datable du 1er siècle avant Jésus-Christ, plus probablement de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, selon moi, qui est suivie immédiatement d'une phase 2, donc ce sont visiblement des ateliers qui se succèdent très vite, une phase 2 qui est datable du début du 1er siècle de notre ère et qui correspond à une construction carrée, que vous voyez là, interprétée comme une forge dans laquelle on travaillait le fer et peut-être des alliages cuivre. En effet, des scories laissent à penser qu'outre la forge, il devait exister des bas-fourneaux de réduction de fer dont le minerai est disponible aux alentours de Myosormos. Cette installation donc est construite à l'entrée du port, immédiatement sur la plage, et semble directement liée à une activité de chantier naval. Lors de la phase 3, que vous voyez dans la partie basse ici, qui est datée du milieu du 1er siècle de notre ère, une nouvelle forge est construite qui fonctionne jusqu'au 2e siècle. Elle comporte à nouveau des fonds de four circulaires environnés de scories qui sont évidemment des restes de bas-fourneaux pour réduire le fer. Une plateforme de briques crues à côté est interprétée comme une cuisine, mais me paraît être plutôt la forge elle-même qui serait associée avec une amphore sur le côté destinée à la trempe. La découverte de nombreux objets en métal et en bois, des clous de fer, des plaques de fer et de cuivre pour réparer les navires, des plaques de plomb avec des trous de clous et des traces d'animaux marins, montre que c'est bien dans cette zone du port que l'on construisait ou on réparait les bateaux. Je rappelle à cette occasion que dans le séminaire qu'il avait donné l'année dernière, Adam Boulou-Jacobsen a signalé ce rôle important de Myos Hormos comme chantier naval, rôle qui est prouvé par un ostracone de crocodilo portant la copie d'une circulaire du préfet au commandant des forts du désert de Bérénice, donc le préfet qui s'appelle Artorius Priscillus, et qui ordonne au curator des Praesidia de surveiller les conducteurs de chariots qui, entre guillemets, laissent tomber du bois d'œuvre lorsqu'ils le transportent, en fait, les conducteurs de chariots qui vendaient dans le dos de l'administration leur chargement de bois qui était en théorie destiné à la construction de navires. D'ailleurs, le tarif de Coptos, dont nous avons parlé l'année dernière, prévoit une taxe sur le passage des mâts et des vergues et également sur le passage dans le désert des charpentiers de marine. Après la phase 3 de ce secteur, je remarque que des dépôts alluviaux couvrent les vestiges, ce qui dénote un abandon de la zone vers la fin du IIe siècle au maximum. Les tranchées 14 A et B, qui sont situées un peu plus au sud, ont montré que s'étendait à cet endroit-là une plage qui bordait le chenal, plage jonchée de tessons, mais qu'il n'y avait, semble-t-il, pas d'aménagement portuaire. Notons que là aussi, on n'a pas trouvé de céramique postérieure au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Avant d'attaquer l'étude des secteurs centraux, vu qu'il est 11 heures, je vous propose de faire 5 minutes de pause, puis nous verrons les secteurs centraux et les questions en suspens, notamment celle des nécropoles et celle des tours qui environnent le site.